Bien, nous appréhendons Non, pas ça, ça. Alors, on appréhende la règle 3.
Qui n'a pas le droit de prendre le document
jusqu'à 4 heures, j'en rajoute.
Non, ouais, tout à l'heure. Ouais. Ah, tu dis que c'est la règle de 3, et c'est une des règles les plus occultes et mystérieuses. Bien. Alors, comprenons que lorsque le groupe est arrivé à sa dimension d'être, c'est-à-dire que ses membres se côtoient et vivent comme des êtres, ils vont laisser la porte en arrière lorsque la parole a retenti, acceptée en tant que groupe. Alors je vous renvoie à ce qui a été donné par Maitreya la fois dernière, et qui en fait crée que des devoirs. Il s'agit maintenant de s'avancer jusqu'à ce qu'on appelle la maison du Père, Sambala, qui est en fait un champ de conscience. Cela veut dire qu'il s'agit d'entrer dans l'âme, la conscience de l'âme de l'homme céleste. En d'autres termes, rejoindre notre racine de vie. Et cette injonction, c'est sortez du désert. Ce qui veut dire assumez maintenant votre rôle de servir la vie. Et symboliquement, là est le grand mystère, tourner le dos à la porte de la maison du Père. Ce qui veut dire, je ne rentre pas, car la tâche n'est pas accomplie. Et en affirmant cela, l'initié a intégré une partie du dessein du Père, que l'on appelle le grand sacrifice. Le grand sacrifice, cela veut dire se sacrifier pour rendre la planète sacrée. Et lorsque les êtres rejoignent la volonté du Père, en fait, ils empruntent la voie du sacrifice. Alors évidemment, ça entraîne l'intéressé au-delà de la conscience humaine. Lui qui était auparavant égocentré sur ses propres intérêts, se dépouille de toutes ses attaches pour servir l'humanité. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça paraît quelque chose de tout à fait nouveau. Pour pas dire et être honnête, actuellement hors de portée. Je sens le silence prendre de l'ampleur.
Mais il y en a aussi qui ont déjà tourné le dos avant, dans notre vie, et qui maintenant doivent juste se rappeler de ça.
Oui, mais la réalité, c'est où est leur champ de service ? Vous savez, Maitreya attend depuis 2000 ans que les êtres s'élisent pour assumer son retour. Nous sommes à la cinquième et dernière tentative. Ce qui veut dire que il y a eu absence de réussite quatre fois.
Il y a eu quatre coups qui n'ont pas marché.
Ouais.
Depuis 2001 ?
Ouais.
Ah bon.
Il y a eu il y a 2000 ans. Il y a eu la table ronde d'Arthur. Il y a eu les Templiers. Et puis, il y a eu une aventure qui a avorté dans l'œuf.
Ça fait trois, ça, la quatrième.
Non, ça fait quatre.
Une aventure qui a avorté.
Et nous sommes à la cinquième.
J'ai pas entendu.
Il m'en manque deux.
La dernière aventure, non. Il y a 2000 ans.
Oui.
Arthur.
Oui,
oui. Les Templiers.
Oui.
Ce qui a avorté dans l'œuf est maintenant. Cinq. Bah oui, bah, c'est les tentatives. Même si vous allez dire, ouais, mais il y a les églises, oui, mais...
C'est laquelle a porté l'enveloppe ?
Oui, on va pas y être.
Je l'attendais.
Comme les églises.
Il a pas tort. Mais elle n'a même pas de nom puisqu'elle a avorté dans l'œuf. Non. Là, récemment, il y a quoi 150 ans. Non, 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 mon ami, c'est le coup d'avant. Les êtres viennent. Les êtres viennent, se retrouvent. Merci.
Mais 150 ans.
Non, vous ne pouvez pas, mettre le doigt dessus puisque ça a avorté dans l'œuf. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que on est à la cinquième et dernière fois. Voilà.
On va réussir.
Il
faut que ça réussisse alors.
Ah
oui, c'est
5. Ah oui,
c'est que. Oui, mais Bernard, depuis ce matin, nous parlons de récupération. Nous avons parlé de ça autour, nous avons entendu parler de ça autour du repas. Oui, Christine nous a parlé un peu de ce qui était. Enfin, j'ai pas très bien entendu autour de Crème. Ensuite, bon, tu nous as donné des éléments et répondu à ma question en ce qui concernait la personne qui a récupéré l'énergie d'amour, qui est l'énergie de Reiki. Alors, on vient faire des efforts, mais si on se fait récupérer, aujourd'hui, je suis un peu glingué là.
Oh.
Donc, tu es à récupérer.
Et à soigner. Je sais pas si je
Il y a une voiture balai, hein, mais c'est intéressant de monter dedans. Mais non, mais c'est là où repose le discernement.
Eh bien, j'ai pas de discernement alors, puisque.
Mais le problème qu'il faut s'assurer, c'est que ça te convienne.
Mais est-ce que tu penses que tous ces gens, par exemple, puisqu'on parlait de Crème tout à l'heure, qui ont suivi Crème, n'ont pas de discernement ou...
Mais non! Non, il ne faut pas globaliser, il faut simplement comprendre que dans cette aventure du cinquième règne, tu as un espace d'évolution, d'âge d'évolution qui est semblable à la traversée du quatrième. C'est-à-dire que tu vas avoir des êtres qui sont encore, il n'y en a plus beaucoup maintenant, en épanouissement de leur véhicule physique et de leur conscience, on va dire, terrestre. Tu as des êtres qui épanouissent leur corps mental, émotionnel. Tu as des êtres qui épanouissent leur corps mental. Et tu as des êtres qui déploient leur personnalité. Eh bien, si tu prends le cinquième règne, tu as l'être qui a rejoint son être intérieur, son âme, et puis après il va s'avancer vers sa racine de vie, c'est-à-dire la maison du Père. Et par ce qu'on appelle les prises de conscience, les initiations, eh bien il accède au mental supérieur, il accède au plan christique, il accède au plan atmique et il accède au plan monadique. Donc tu as des paliers de progression qui sont... Bon, eh bien, dans ces paliers de progression, tu as des zones de difficulté qu'on appelle les points de tension, les points de crise. Et pour progresser, les points de tension génèrent une épreuve, une crise.
Et l'aspect, c'est qu'on est pu tourner vers l'extérieur comme au début, où on a besoin d'un point repère avec quelqu'un qui nous guide, mais on se tourne au fur et à mesure vers l'intérieur et vers le haut, qui en fait c'est le seul point de repère qu'on ait. C'est-à-dire qu'on cherche un crème, on cherche toujours quelque part un peu un gourou ou quelqu'un qui nous éclaire. Mais entre le passage de l'âme et la monade, c'est la monade qui doit prendre le dessus, donc l'axe de lumière est complètement vertical et interne, intérieur.
Et on ne cherche pas à l'extérieur.
La finalité, c'est d'arriver à la maîtrise de la personnalité, du non-soi, et ensuite d'être le serviteur de la vie. Bon. Mais quand l'être a atteint ce stade, il ne fait que marcher avec d'autres êtres qui sont un peu plus avancés, mais qui ne font que transmettre leur expérience. C'est les jeunes disciples qui ont besoin d'un guide.
Oui, ça j'entends bien, c'était pas ma question.
Non, mais on n'a peut-être pas compris ta question, reformule-la.
Mais non, c'est sur l'aspect, ce qui l'a dérangé, c'était le fait d'être floué par des êtres qu'elle pouvait penser comme étant référence.
C'est pas des êtres, d'ailleurs, peut-être pas,
enfin, oui. Ah si, dans le cas présent, ils y sont... Mais le problème qu'il faut... Regarde, je vais te donner un autre sujet. Dans l'Église, tu as beaucoup d'êtres de bonne volonté. Bon. Mais ils sont sous l'amidon de la hiérarchie de l'Église. Et ils sont persuadés que parce que l'être est prêtre ou chamoine ou évêque ou que sais-je, c'est le bon Dieu sans confession.
Je suis d'accord.
Bon, et ben ce que tu as là, ça se répète partout. Voilà, c'est à toi d'avoir discernement. Je prends un autre sujet pour que tu saisisses bien. Tu vas voir un magnétiseur.
Non, est-ce... je n'y vais pas.
Bon.
Mais tu m'as dit qu'il fallait choisir par qui on était béni, donc je sais.
Bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que, voilà. Tu vas te faire recharger par quelqu'un qui est plus pollué que toi.
Non, je ne vais pas.
Bon. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu apprends? Tu apprends le discernement. Voilà.
Comment on se dépollue?
Ça répond.
Alors, quand tu dis comment se dépolluer, je te réponds, il s'agit de vivre dans un lieu sain, avec une alimentation saine et un esprit sain et des fréquentations saines. Mais si tu négliges, tu vas te prendre des pollutions. Et tu auras des handicaps. Te dépolluer, fondamentalement, c'est la transformation. C'est-à-dire, les pires pollutions sont les pollutions mentales. Si ne contrôles pas le type d'énergie que tu utilises mentalement, tu t'alourdis et puis c'est une pollution. Aujourd'hui, un être devrait être en conscience de son être intérieur de lumière.
Donc la méditation, par exemple, dépollue.
Absolument. Et la méditation est un processus de nettoyage supérieur. Parce que si tu uses régulièrement de cet alignement, l'énergie qui afflue nettoie. Mais
oui, je suis d'accord, mais ce qui n'empêche, il n'empêche quand même que chaque jour, on doit, comme tu disais tout à l'heure, vivre. Avec des pensées saines, dans un corps sain, une alimentation saine, etc.
Et des fréquentations saines.
C'est pas parce que tu vas méditer que tu vas...
Non. Là, tu fais abstraction de la puissance du feu divin qui afflue en toi.
Oui, en fait, c'est à tout instant, à tout moment.
N'oublie pas, le Père est un feu dévorant. Si tu médites, il est à l'écoute. Si tu es clair... Eh bien, il va ouvrir sa porte et le feu va te dévorer, symboliquement. Quand il est dit dans la règle, ne retirez pas, vous ne pourriez pas. Ça veut dire ça. Ça veut dire que tu es arrivé à ce que le Père peut maintenant ouvrir sa porte et il ne va pas te lâcher. Parce que, en réalité, tu es le Père.
De toute façon, c'est toujours la mise en pratique et le mérite. Tu as le retour.
Quand tu dis « le Père, il a ouvert la porte »,
contactes et ils ne te lâchent pas, ça veut dire aussi que tu te mets à la fréquence du Père, donc effectivement, automatiquement, tu es en liaison avec lui.
Mais oui, non, mais
si tu es le Père.
Tu ne peux pas, d'un côté, positionner ton idéal en disant « j'aspire à ce qu'il y ait une société de justes relations où nous vivions dans un monde de partage ». Attends, tu peux pas, je dirais, avoir cette aspiration, cet idéal, et de l'autre côté, pas t'avancer vers. Simplement, ce qui est abstraction pour un être ordinaire, pour toi, c'est une réalité essentielle. C'est l'attente ardente de ta vie. Non, ce qu'il faut, je reviens à ton sujet, ce qu'il faut bien saisir, c'est que nous appréhendons l'énergie cosmique de liberté. Cette énergie cosmique de liberté est l'énergie et la loi la inférieure de Sirius. Bon. Et elle est la loi de synthèse de la loi d'économie, de la loi d'attraction et de répulsion et de la loi de synthèse. En fait, c'est d'amener les vies à être libres en majuscule. Mais libre, c'est pas faire n'importe quoi, c'est ne pas être emprisonné et dépendant.
Conduis-nous au Seigneur de la dépendance et de la liberté.
Voilà. Alors, le discernement, la discrimination, c'est le mode opératoire. Tu ne peux pas, je dirais, fréquenter le négatif sans avoir péril en la matière. Hein? Et c'est là où tu as besoin de discernement, parce qu'il faut bien penser que le Blackos, il ne va pas te mettre ici un panneau « attention danger hein ». Hein? Je veux dire, au contraire, il va bien, comme on dit, brosser dans le sens du poil. Je voulais un exemple hein, pour vous montrer. Quand on était près du Touquet, il y avait un gros bourg dans les environs où le maire en question était minotier. Minutier.
La farine.
Bon. Et engrais, tout ça. Alors, il avait une clientèle d'agriculteurs, lesquels étaient parfois en difficulté. Et alors, dans son grand cœur apparent, bon, c'est pas un problème. Allez, vous passerez à la minoterie, vous passerez au service, et puis je laisserai. Donc, voilà. Et il laissait courir pendant une paire d'années le service d'approvisionnement. Quand il sentait que l'intéressé était bien coincé, ah mon ami, écoutez, je suis désolé, hein, je viens vous voir, mais moi aussi j'ai mes difficultés, voilà, bon. Écoutez, ce qu'on peut faire quand même, c'est, bah, voilà, je vous reprends des hectares, et puis, et il en était à 1000 hectares. Pas beau ça, hein? Voilà. Mais il faut connaître qu'il était repéré. Mais il a joué à ça. Il a réussi à empocher 1000 hectares en faisant ça. Il n'y a pas de diable. Il y a chacun des êtres qui se laisse aller à des comportements dominants. Et, voilà.
Oui, mais le discernement de ces gens, là, tu vois, c'était le discernement dont je peux parler. Puisque là, il avait entre guillemets eu ces gens-là, là, finalement. Eh bien, ma question était allée dans ce sens-là, c'est-à-dire que, par exemple, puisque ma question, bon, je peux le dire à tout le monde finalement, était que tu nous avais dit que dans l'énergie Reiki que je pratique depuis de longues années, ça a été maintenant repris par.
Il y a des interférences du négatif dedans.
Comment faire pour quand on. Voilà.
Bah tu fais comme. Tu le sais. Tu le sais, tu exerces ton discernement. Peut-être que Bernard, il t'a raconté quelque chose qui. Voilà, c'est
ça. J'ai pensé tout de suite.
Bon.
Ouais. Mais bon, si je t'ai posé la question une deuxième fois, c'est que.
Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que. le négatif à pignon sur rue.
Oui.
Hein, dans ma première partie de vie, j'ai été dans la finance. Et j'ai entendu un jour un directeur général d'une des boîtes importantes, connues, bon, nous sortir, c'est le contentieux qui est notre domaine le plus rentable. Ce à quoi, pour aller plus loin, ils ont créé une société immobilière qui rachetait les saisies au tribunal pour les revendre et refaire encore du profit dessus. Voilà.
Vive. Le contentieux, c'est à quoi, excuse-moi.
Et si vous voulez extrapoler, c'est l'affaire qui s'est passée aux USA des subprimes. Ils ont dit, les financiers se sont dit, de toute façon, le contentieux, c'est hyper rentable. Bon, le problème, c'est qu'ils ont tellement lâché le bazar qu'ils ont été dépassés par le phénomène. Voilà. Hein? Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'ils avaient réussi à revendre leurs créances quand ils ont vu que ça allait déraper.
Oui,
ils s'en étaient débarrassés.
Et là, la deuxième vague de fond, je ne sais pas si vous avez vu, c'était il y a une paire de mois, c'est qu'ils ont vendu bien sûr aux institutionnels américains, qui les mettent en procès en disant qu'il y a tromperie sur la marchandise. Ce qui veut dire que vous allez avoir un deuxième boom au niveau du clash bancaire, parce qu'ils vont avoir à faire face à cette tromperie.
Ça s'appelle l'effet boomerang,
ça, ouais. Ah ouais, logique.
C'est toujours deux fois. C'est toujours deux fois.
Le boomerang, il y a deux.
Quand il arrive une chose comme ça, c'est toujours il y a deux.
Mais il y a là, il a arrière banc.
C'est la deuxième lame qui.
Ouais. Monsieur Le Lièvre, bonjour. Pan. Il rappelle. Monsieur Le Lièvre, pan, je vous avais loupé. Voilà, l'arrière-ban. Bon. Ayant ramené à des champs de conscience inférieurs.
Juste, monsieur.
Monsieur.
Il nous l'a fait.
Bernard.
Les cinq tentatives, à part celle avortée dans l'œuf où on ne sait pas dans quel œuf c'est.
Mais lâche ça. Oh, lâche ça. C'est pas dans le cours.
C'est pas dans le cours.
Non, c'est pas dans le cours.
Non, mais les
Non, je me. Prends ça comme si je m'étais égaré.
Non, mais ce qui me surprend, c'est que.
C'est pas de Saint-Bernard.
Les trois autres semblent.
Tu sais ce que c'est qu'un pitbull? C'est un chien qui lâche pas son os. Allez Gilles, pose ta question. On va pas te laisser comme ça.
Non, c'était que les 2000 ans Arthur et Templier, ça
Mais il en manque un, c'est tout.
Oui. Mais non, il n'en manque pas. J'ai dit qu'on était à la cinquième tentative. Oh. Mais il y a 2000 ans, c'était une tentative. Non, tu dis oui, d'accord. Mais quelle a été l'erreur du moment? L'erreur du moment, ça a été l'affectivité des apôtres. À savoir que... Quelle était l'intention de ce qui se passait? C'était de montrer le corps énergétique de l'être. Pour montrer justement le processus de renaissance. Et il faut peut-être lire autrement ce que l'Église a transmis, à savoir que Judas n'a pas trahi, il avait à accomplir quelque chose de très éprouvant, qui était de provoquer le processus de sacrifice de Jésus. Mais Jésus le savait. Je ne parle pas de Maitreya, hein, qui n'était, à partir du Gethsémani, n'était plus. Bon. Judas livre Jésus. Mais pas en trahison. Pas avec trahison. Bon. Les apôtres avaient quoi? les apôtres avaient à être dans une impassibilité et un détachement peu ordinaire du genre « Vous, vous, bon, de toute façon, nous, on sait ce qui va se passer. Hein » Il vous l'a dit, il nous l'a dit. Dans 3 jours, il sera à nouveau parmi nous. Imaginez à la face du monde ce que serait donnée cette attitude. Ça voulait dire en conscience, nous le savons ce que vous allez voir. Nous le savons. Et autrement, ils sont partis par affectivité en disant « Oh là là, c'est épouvantable, on nous torture notre frère chéri. » Bon, et ils sont éclatés. Donc ils n'ont pas assumé cette garantie du déroulement. Judas, il s'est pas suicidé parce qu'il avait trahi, il s'est suicidé parce qu'il supportait pas d'avoir fait à son frère qu'il aimait, voilà. Et regardez, il est différent. Quel était le message? Le message, c'était le corps énergétique. Aujourd'hui, vous avez les gens d'église qui sont encore à se demander, quand il y a des apparitions, ce que ça veut dire.
Si je peux me permettre, on peut faire un parallèle aussi avec... tout à l'heure, on parlait de l'aspect paternel et... de la maîtrise au niveau émotionnel, de l'affectivité, dans l'aspect fraternel. Or, il y a 2000 ans, en fait, c'est justement ce qui n'a pas été assumé, cet aspect-là. Et on peut comprendre pourquoi, en rétribution karmique, au niveau du poids de l'humanité, énormément de groupes dits spirituels battent de l'aile et ne vont pas bien parce qu'ils payent toujours cette non-maîtrise de l'affectivité au sein d'un groupe fraternel de travail spirituel. C'est la même fibre qui n'a pas été dépassée, n'a pas été maîtrisée.
Les aides du groupe ne se côtoient pas par affectivité.
Et l'échec chez Arthur et puis l'échec des Templiers, c'est exactement le même?
Oui.
Je vais vous répondre.
Alors, quand on lit Chrétien de Troyes, dans la version classique, on peut dire Lancelot, Apothèque, Guenièvre, tout ça, c'est une grande foutaise. C'est-à-dire que quand on lit Chrétien de Troyes, on s'aperçoit qu'en fait, Perceval a fait une demande pour rentrer au groupe de la table ronde. Les uns et les autres se sont levés et ont demandé à Arthur le droit de pouvoir l'y asseoir à cette table. Arthur a refusé dans un premier temps et pressé par les uns et les autres, amicalement parlant, il a accepté. Donc il a cédé émotionnellement à quelque chose qui devait être mérité par vertu et qualité. La faute réel des Templiers vient de là. Et quand on lit Chrétien de Troyes, dans la légende entre guillemets, dès l'instant où Perceval s'assoit dans le fauteuil, en fait la table d'émeraude qui est au centre se fend et tombe. Après, tout ce qui va être fait va être pour recréer l'unité, parce que par cette faute liée à l'émotionnel, donc on est au plan astral, l'unité symbolique représentée par l'âme qu'ils représentaient tous, eux, c'est-à-dire que chacun des chevaliers représentait un des aspects à maîtriser pour faire une union de l'âme. Donc toute la quête qui va être décrite après, c'est la quête de l'union. Et dans cette quête de l'union, en fait, Lancelot, qui a des regards sur Guenièvre, c'est le mental qui a des regards sur l'âme. Et qui veut épouser l'âme, parce qu'il est bien dit en fait dans les écrits que chaque chevalier n'avait pour cesse et but que d'épouser eux-mêmes Guenièvre. Voilà. Et tout en fait, quand on lit en symbolique, on s'aperçoit que la réalité et le problème étaient fondamentalement émotionnels et ne permettaient pas l'unité. De même par rapport à Merlin et Viviane. Merlin représente le mental supérieur et Viviane représente le plan bouddhique. La dame du lac. Et en fait, il est dit dans les écrits que Merlin apprend tout, donne tous les éléments, se fait don de tout ce qu'il possède à Viviane, c'est-à-dire s'abandonne à Viviane, et ce pourquoi Viviane l'emprisonne, c'est-à-dire l'incorpore.
Et il se laisse emprisonner.
Voilà.
Donc en fait, le mental devient le véhicule du plan christique.
Voilà.
Mais ça n'a pas été lu, ça.
Et la tour de l'air, à ce moment-là, elle l'emprisonne dans une tour de l'air, et en fait, c'est le plan bouddhique. C'est le canal qui le relie entre l'aspect terre et jusqu'au plan bouddhique.
Alors, vous voyez comment nos brillants intellectuels, pour l'instant, n'accèdent pas à la véritable lecture de l'aventure des chevaliers de la table ronde.
Oui, c'est
sûr.
C'est Perceval qui trouve le Graal.
Galad. Mais voilà, à travers Galad, on peut remettre le nom de...
Galad, en fait, est l'incarnation d'un guide. Parce qu'en fait, la finalité, c'était le retour des guides.
C'est écrit dans son nom.
Parce que le maître des guides n'apparaîtra que lorsque les guides réapparaîtront officiellement parmi les hommes.
Voilà.
Pour l'instant, ils se tiennent derrière les voiles.
Ma question de départ, c'était que ces cinq tentatives, elles semblent toutes liées symboliquement, mais aussi historiquement, à l'Occident. Même si c'est Jérusalem et tout ça, après la chrétienté.
Non, t'as une aventure en Orient. Tu as une aventure semblable au Japon, en Chine.
C'est par cycle en fait.
Dans d'autres temps, dans d'autres pays.
Oui, antérieurs.
Voilà,
oui, absolument. En Amérique, partout.
Si tu prends entre moins 500 ans et maintenant, on peut dire relativement que c'est l'Occident. Bien que c'est commencé vers la Perse.
Maintenant.
Oui, le début de cycle était vers la Perse. Parce qu'avant, ça venait de l'Orient. Le cycle avant était lié à l'Orient.
Puis le cycle qui nous suit, ça part en Amérique latine.
Non. Pour l'instant, ville présent.
Voilà. Il y a assez de problèmes comme ça.
L'important, c'est pas de savoir ce qui a été fait et qui n'a pas été fait. On est dans le présent.
Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les tentatives ont échoué par la non-maîtrise émotionnelle. Et que si quelqu'un n'a qu'une seule chose à travailler, c'est ça.
Les Templiers, alors, je comprends pas.
C'est l'argent.
Non, le problème.
C'est l'émotionnel aussi.
Oui.
Enfin, indirectement. Oui. Mental et émotionnel.
Alors, en deux mots, hein. Normalement, on devrait arrêter les enregistrements. Les Templiers avaient bien abouti dans l'instauration d'une société de partage. Ils avaient 6000 commanderies à travers l'Europe. Bon. Le secret des Templiers, c'était le retour du maître des guides. Mais, bien évidemment, il fallait accueillir les guides. Alors imaginez des moines soldats à qui on dit « Il vous faut, compte tenu que les guides ne peuvent venir que par des couples avancés dans la réalisation de l'être, et il y a eu de la part des Templiers un premier mouvement de résistance, voire de recul. » Qu'est-ce qu'on va penser de nous qui avons fait des vœux de...
J'ai rien compris.
Hein ?
J'ai rien compris. Ils ont fait vœux de chasteté.
Parce que le retour des couples, c'est lié à cette notion de couple. De nombre de couples alignés.
Mais oui. Dans la réalité, les êtres avancés ne peuvent venir que parmi des couples d'êtres avancés. Autrement, bonjour la descente et bonjour le parcours de jeunesse.
On ne pouvait pas faire comme la Vierge.
Tu touches quelque chose. Il va falloir qu'on arrête carrément les enregistrements. Hein.
Excusez-moi.
Ah non. Après, vous allez me dire, ouais, il est mystérieux, il dit rien. Bon.
Bah, faut les arrêter.
Lorsqu'un être est sorti du règne humain, il se manifeste à son gré. Soit par Maya Virupa, c'est-à-dire il prend corps d'apparence, soit il s'auto-crée. Alors ça veut dire que dans un couple, il va bien sûr user de la ligne matière que représente la mère, il a besoin autant de la ligne père liée au père, c'est-à-dire énergétique, mais il s'auto-crée. Et c'est ce qui s'est passé pour Marie.
Oui.
C'est que dans la réalité, en fait, Jésus s'est auto-créé. Donc, conception du Saint-Esprit.
Mais elle aussi,
ça peut auto faire pareil pour les...
Hein?
Elle aussi, oui, tout à fait.
Marie aussi.
Marie conçue sans péché.
Non, mais ça, attendez. Ça,
ça date du 19e siècle, ça, enfin.
Ça,
ouais.
C'est vrai. Mais non, l'entité Marie.
Reprends l'image. Hein.
No comment. Mais non, allons. Il faut arrêter de vous aveugler avec des bévues du genre les petites filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Hein. On a donné. Hein. Alors, faut arrêter. Hein? De quoi?
Des naissances qui ont lieu par la lumière, mais dans l'utérus de la mère.
Mais tout être, quand il va venir, il projette son fœtus, il projette son corps, son fil d'argent, son sous-traitement dans le centre cardiaque du fœtus.
Oui, mais il n'y avait pas besoin de la semence du père, justement. Il n'y avait que son énergie.
C'est ce que je viens de t'expliquer.
Mais elle parle de Marie, là.
Mais oui, mais c'est la même chose que la mère du Bouddha.
Ah oui.
Il faut inscrire ça, si vous voulez, dans le cycle de la descente dans la matière. Les premières races, l'être entre guillemets encore physique, il suit une grosse goutte de son corps protoplasmique. Et l'être qui venait prenait possession de cette goutte qui donnait son corps. Alors, il ne faut pas vous fixer, il y a tout un schéma, si vous voulez descendre dans la matière, on est au plus bas, et on va remonter. Hein, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la troisième race racine, deuxième période, l'être a cessé d'être créateur, il est devenu géniteur.
À partir de quand ?
Troisième race racine, deuxième partie de la race. Mais on s'en va de l'autre côté maintenant. On remonte. Simplement, il y a ceux qui n'arriveront pas à tenir la cadence, c'est tout. Mais vous retrouvez ça, ce que je vous évoque là, vous le retrouvez chez Blavatsky. Hein, dans le livre 3, l'anthropogénèse, tout ça est bien expliqué. Alors là, la révélation cachée derrière cette règle 3, c'est qu'en fait tout est vie et que la vie assumée, l'être devient divin. Mais cela implique la notion de volonté. Alors, la particularité, le groupe a un dessin. Un dessin de groupe. Et l'initié, lui, travaille avec le plan, c'est-à-dire l'exécution de ce dessin. Le dessin du groupe s'intègre dans une dimension de dessin plus vaste, qui est le dessin de l'une des sept familles de rayons, lequel s'inscrit dans le dessin hiérarchique. Alors en fait, comprenons le processus général. Le créateur conçoit l'aboutissement de sa création. Cette création entre en manifestation. De cette création émergent des créatures. Le créateur a pulvérisé sa vie dans sa création. Et en tant que créature, il doit retourner à sa réalité de créateur. Le penseur conçoit sa pensée, se projette dans sa pensée qui devient sa forme pensée, d'où il devra réapparaître en tant que penseur. Alors la difficulté qui peut apparaître pour vous, c'est de bien saisir la dimension que révèle le penseur. Il faut arrêter de concevoir que notre pensée, c'est une abstraction pure et simple. C'est ce qui détermine notre futur. Tel que vous pensez, vous serez. Ça doit nous encourager aux 12 secondes. Hein. Ce qui veut dire que dans ce processus, eh bien, quand vous allez au Père, le Père vient à vous, mais c'est un feu dévorant. Ce qui veut dire que toutes les scories vont remonter. En cela, c'est le parcours le plus difficile. Ce qui veut dire tu es moi et je suis en toi, mais regarde-moi pour me voir. C'est-à-dire regarde comment je suis, qui je suis. Et assume.
Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre, Bernard, c'est le fait que ces scories, elles sont existantes, bien entendu, elles sont toujours existantes, elles sont toujours là.
Non, elles ne sont pas toujours là.
Attends, elles sont existantes.
Dieu t'en garde.
Et par contre, il y a une épuration qui se fait par cette spagérie, forcément, il y a bien une épuration qui se fait. Tu me dis, elle remonte. Je suis d'accord, mais elle remonte pour disparaître, pour être apurée.
Oui.
C'est bien ça, non?
Oui,
Donc en fait, elles ne seront plus là après.
Elles ne seront plus là, hormis le fait que tu deviens le père et que tu vois que le chantier est loin d'être achevé.
Parce que plus tu avances et plus tu nettoies
les erreurs des vies passées.
Oui. C'est ça veut dire qu'il y a toujours des scories, alors
jusqu'à la libération. Sixième règle.
Donc, et puration.
C'est
exactement ça.
Avec le, le terme pur.
L'étymologie, n'est-ce pas, du mot pur, justement, qui vient du feu en grec, c'est exactement ça.
Pyros.
Ah oui, et pur.
Taux pur, puros, oui, c'est ça.
Oui.
Vous voyez, comme quoi, quand on parle français, en fait, on parle grec. Hein.
Ouais.
Mais c'est pas la première fois que je dis ça.
Ça s'arrête, quand même.
La langue française, ésotériquement, est très riche.
Ce qu'on appelle la langue des oiseaux.
C'est-à-dire, dans sa dimension spirituelle, la langue française est très riche. Hein? Regardez simplement, on l'a déjà évoqué, mais quand vous voyez que maladie.
C'est le maladie.
Hein?
C'est incroyable.
C'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux, hein, tout simplement.
J'ai vu récemment une cliente, une fermière, elle me dit, alors, maladie, mais...
Et est-ce que dans d'autres langues, on peut employer le langage des oiseaux, justement?
Il y a certaines langues, oui, qui fonctionnent assez bien.
À l'origine, le sanzar et le sanskrit portaient ça. Mais actuellement, je pense que dans les langues modernes vivantes, le français est le plus avancé en matière de réalité subtile.
Mais dans les langues dites mortes, vous avez l'hébreu et le grec ancien, qui sont également porteurs de nombreux messages. Et on peut, disons, jongler avec ces trois langues. C'est ce que je fais, moi, et on obtient des résultats tout à fait...
C'est-à-dire qu'une langue est sacrée dès l'instant où elle est en concordance avec la réalité énergétique. Hein, le sacré, comprenez, hein, le sacré, c'est pas le religieux. Quelque chose est sacré, un symbole est sacré, parce qu'il est conforme à la réalité, en majuscule, de la vie.
Une question, puis aussi peut-être dans un coin de ma tête, une petite réclamation. Tu nous as bien appris que la pensée est créatrice et ainsi de suite, on ne va pas développer. La pensée, c'est les paroles, mais...
Non, la pensée devient forme, pensée qui devient parole.
Oui. Alors, ma question est la suivante. Nous avons fait deux ou trois séances où nous avons chanté à base de paroles, par exemple... À la Clairefontaine.
Non.
Sur l'air de la...
C'est à la Dame du Lac.
Oui. À la Dame du Lac, sur l'air de la Clairefontaine. Bon, je ne parlerai que de ces titres-là parce que certains titres avec lesquels nous avons chanté, c'est tout qu'ils sont aussi récupérés. Et je reviens à la question de tout à l'heure, la récupération par, entre guillemets, les forces noires.
Tu prends l'As Vatica et puis tu as la réponse.
Oui, Hitler... nous avons fait vivre ici... Nous avons fait vivre ici sur l'air de
mais,
le dernier air.
Alors, regarde. Ce que tu dois comprendre.
Le cinquième de l'hymne à la joie.
Un, tu chantes.
Oui.
C'est le langage d'Evic.
Oui.
C'est le langage des sons. Tu as une pénétration pyramidale de conscience. Tu vois ce que j'évoque ? C'est-à-dire que au plus haut de ta source de lumière, tu te trouves. Quand tu es dans ces consciences, je répète, du vrai, du beau, du bien, du pur, tu atteins ces plans de conscience. Et si tu es en état de sacralisation, c'est-à-dire si c'est en jonction avec la réalité, tu t'offres comme canal. Mais celui qui va chanter à la Clairefontaine et qui est en pur émotionnel, bah, il s'arrête là. Hein. Il s'arrête là. Mais le pur, n'est jamais souillé. Il n'est jamais souillé, le pur. Ce qui veut dire que tu penses que tu le souilles, mais tu ne l'atteins pas. Tu ne l'atteins pas. Donc la personne qui va dire « Ah, allez, je travestis ceci, je travestis cela », mais il n'y a qu'elle qui se pollue. Tu n'atteins pas. C'est pour ça que tu n'atteins pas la mer. Et c'est pour ça qu'Alcyone, qui est la mer cosmique de la Terre, a été préservée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune remontée qui allait jusque elle. L'étoile perdue, elle est perdue pour l'humanité, elle n'est pas perdue pour elle-même. Ce qui veut dire que tu es maître de ton destin. Alors bien sûr, quelle est la stratégie du négatif? C'est de leurrer. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Hitler? Hitler, qui était un beau frère noir, l'antichrist. Il savait pertinemment que l'esprit descendait dans la matière. Et que à partir de là, t'avais la roue de la vie. Moi, je suis pas d'accord, donc je fais un dessin que vous me verrez bien sûr vous laisser concevoir, en disant je l'arrête au premier pas du processus parce que je veux pas qu'il y ait évolution. Ça devient la croix gammée. Mais c'est un instant illusoire dans le temps cosmique, mais qui est lié au processus de liberté, c'est-à-dire du jeu permanent du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Que fait l'initié? L'initié, il dit moi, c'est ça. C'est-à-dire la roue inversée, je remonte à ma source. Voilà. Voilà, mais le Hitler en question, c'est une très grande illusion. Voilà. Il est l'aiguillon du bien. Alors vous allez me dire comment il est l'aiguillon du bien? Eh bien parce que l'humanité a tellement fait de conneries qu'elle a mérité un Hitler. Alors, au même titre qu'un pays mérite l'homme d'État qui choisit.
Bernard,
alors, ne pas vous plaindre, hein. Bon.
Dans cette règle numéro 3, il parle précisément du Soka de Hitler. On dit que c'était dans cette période de la Deuxième Guerre mondiale, qui était aussi une époque de nettoyage.
Là, ce que tu évoques là, c'est l'accès du feu de Sambala directement sur l'humanité.
Mais Hitler, il a été...
Après la guerre.
Mais Hitler, il a été en quelque sorte quelqu'un qui a permis aussi qu'il y ait la disparition des formes.
Oui, mais vu sur un plan supérieur, les êtres concernés, eh ben, ils étaient en souffrance, donc en épuration. Ils étaient en épuration. Mais ça n'a qu'à temps. Hein, simplement, le poids du négatif de l'humanité a permis à la clique Hitler, Goebbels, Göring et compagnie de venir et de faire leur scénario de mort.
Chaque nation était très individualiste et c'est depuis cette période-là que les nations ont commencé à avoir une vision unitaire.
Oui, donc d'où la
création de l'ONU. Parce que la SDN d'avant la guerre n'a rien à voir avec tout.
C'est la dualité en manifestation, forcément. Où il y a du bien et forcément du mal.
Oui.
C'est
la deuxième avec
l'ONU. Est-ce que tu peux me définir ce qu'est le sixième règne?
Alors, quand dans l'évolution de l'homme, au-delà du cinquième règne, qui est le règne spirituel, tu as le règne divin. Alors, le règne divin, c'est le sixième règne, c'est-à-dire des êtres qui sont libérés des obligations de renaissance et qui sont entrés dans leur sentier cosmique d'évolution. Ce sont donc des êtres qui ont atteint la sixième initiation. Pour vous donner une référence, Maitreya sortira de la septième quand il sera réapparu sur la Terre et qu'il aura restauré la paix dans l'humanité.
Le sentier cosmique direct ?
Pardon ? Quand un être sort du cinquième règne, il rentre sur l'un des sept sentiers de l'évolution cosmique qui vont le mener aux différents confins des univers. Un jour, on étudiera les sept sentiers cosmiques.
Ah oui.
Oui, mais il faut y arriver aussi avant. Or, tu ne peux en arriver sur l'un des sept sentiers si tu es un serviteur accompli.
C'est un message personnel ?
De quoi ? Non. Il est fait à ceux qui ont des oreilles pour entendre.
Moi, j'aimerais, concernant la pensée ou la méditation, quand je médite, que je dis la grande invocation, je sens bien qu'il peut y avoir une puissance, peut-être je me trompe, mais une puissance différente selon d'où je la lis. Là, je peux dire la grande invocation dans ma bagnole en pensant à autre chose. Mmh. Je peux la dire en étant vraiment concentré, ou je sens qu'il y a une puissance dans ce que je dis qui fait qu'il y a une résonance en proportion. Donc la pensée est créatrice, mais les pensées ne sont pas au même titre. Non. Donc, qu'est-ce qui donne du feu à cette pensée pour multiplier son pouvoir ?
Oui, aussi surprenant que tu sembles l'évoquer, si tu sais être centré sur ta méditation alors que tout s'agite autour de toi, là tu mesures l'efficacité de ton travail.
Est-ce qu'on peut dire dans l'invocation toute une vie que ça ne bouge pas après ?
Ah ben c'est comme les prières, ça. C'est comme les moulins à prière.
Donc c'est quoi l'énergie qui a ta vie centrale ?
Mais c'est le fait que tu pénètres ce que tu dis.
On a-t-il une conviction ?
Oh, ça va au-delà, ça veut dire que tu saisis la portée de conscience de ce que tu dis. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Ça peut être une abstraction pour celui qui entend ça, comme ça peut être pour l'être de dire « je sers la volonté du Père ». C'est-à-dire, si tu veux, tu as derrière l'invocation la puissance de saisie de ce que cela recouvre comme concept, de compréhension, et ton intime participation à ce que cela veut dire.
Parce que tu dis intime participation, moi je le sens comme un feu dedans.
Comme, oui, mais essaye de saisir. On le verra demain, mais pas forcément à ce niveau de ce que je vais vous expliquer. L'être que nous sommes est une sphère d'énergie avec 7 centres principaux, 14 centres secondaires, 21 centres tertiaires, et après des myriades de petits centres. Les 7 centres principaux sont traversés par 21 énergies. Les 14 centres secondaires sont traversés par 14 énergies. Et les centres tertiaires par 7 énergies. Bon. Essayez de comprendre que selon votre qualification, votre pureté, nous sommes en permanence traversés par des vies grandioses. Quand nous sommes en élévation. Vous réalisez ? qu'en permanence, vous choisissez d'être traversé soit par des vies lunaires, hein, comme l'homme a se vautré avec, comme vous pouvez être traversé par... voilà. Si vous êtes en accès avec les champs de conscience du Père, vous êtes traversé par ce qu'on appelle sa Sakti, c'est-à-dire son énergie. Après, bah, vous comprenez pourquoi se déroulent, je dirais, les phénomènes dits miraculeux.
Donc, j'ai lu dans la troisième et quatrième que la grande invocation, il y avait un dernier paragraphe qui ne nous était pas communiqué. Ah ouais. Qui nous serait communiqué à un niveau d'évolution, certainement.
Bah, ça relève de la vie. Oui. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Puisque la synthèse de la volonté, de l'amour et de l'intelligence, c'est la vie. Hein, puisque ce sont les trois aspects de la vie. Bon, mais derrière la vie, il y a la loi de liberté. Mais ça ne sert à rien de franchir les portes. Tu peux pas, s'il y a quatre portes devant toi, tu ne peux pas aller à la cinquième tout de suite. Quoique. Bon. Vous savez, Maitreya, il faut savoir, ça a été le premier de cette humanité, hein, propre à la Terre, à sortir du règne humain. Au même titre que le Bouddha a été le dernier à sortir de la quatrième race. Mais avoir tous les deux des champs de conscience de ce que sera la conscience de la sixième race. Mais c'est à portée de chacun dès l'instant où on tient bon et on assume, bon sang. C'est pas compliqué. La compréhension est simple. La mise en application, ouais, bon, d'accord. Hein, ben voilà. Il faut comprendre qu'à un moment donné, la vie attend de s'épanouir. Et cette vie est faite de vie au pluriel. Mais il n'y a qu'une seule vie. Donc si nous sommes qualifiés pour, avec tout ce que ça implique, à assumer des 12 observances, et ensuite des 21 aspects de l'élégance qu'on évoquera un jour, voilà. Mais ce qu'il faut saisir, c'est que ce que nous appelons qualité est en fait une caractéristique énergétique. Ce qu'on appelle vertu est en fait des lignes d'énergie de vie. C'est pas une abstraction. Quand vous pratiquez la tempérance, vous êtes traversé par un être énergie qui a comme caractéristique majeure la tempérance. On est loin, si vous voulez, de ce que peut être le vide de tout ça. C'est de l'énergie de vie. Ça n'a rien, absolument pas. C'est là où on est la voix. Quand Maitreya vous dit « je suis la voix », bah oui. Hein, simplement, quel est le dessein du Père ? C'est la voix manifestée. Le Père est potentialité. La Mère est manifestation. L'union des deux montre le dessein divin. L'homme-Dieu. La question, elle a deux aspects. Un, il faut vivre cela. Deux, il faut l'assumer. essayer d'imaginer que nous sommes en fait des goulots d'étranglement pour l'instant. Nous sommes la vie et nous l'empêchons en tant que centre de vie de s'éclater en nous.
On peut, si ça est pertinent là, parler un peu du rôle du sang en tant que pont.
Le sang, c'est l'énergie de la matière.
Des règles pour les femmes, des menstruations et tout ça, et de tout le détournement qui a été fait là autour.
C'est simplement que à un moment donné, eh bien, la nature respecte son cycle naturel et que il y a un moment donné où ce qui a été le fruit non fécondé, eh bien, comme il n'a pas été saisi, il est éliminé. Et donc, voilà, il y a un phénomène d'épuration qui se produit.
D'épuration, mais de purification pour la terre, non ?
Il faut faire attention aux raccourcis qui, en fin de compte, n'ont pas de sens véritable. Mais quand vous parlez d'aspect féminin, en tant qu'être, hein, tous nos échanges sont dans les consciences de l'être. Et alors, je vous dis, attention, d'une façon ou d'une autre, vous êtes en cycle masculin et ensuite en cycle féminin. Voilà. Simplement, dans le processus de liberté, eh bien, on a à assumer la libération de la femme, que nous sommes éventuellement ultérieurement, hein, et la libération de l'enfant. Parce que les deux sont en prison actuellement. Alors, l'enfant, si vous regardez, on essaye, l'humain, et l'adulte essaye de le formater.
Parce que l'école déjà.
Ah, qui rentre dans le moule.
Le fœtus déjà,
qui rentre dans le moule.
Ah bon, il n'y a plus larvé, c'est déjà ça.
Oui, mais enfin, on n'est plus à l'armée, mais comme on n'est plus en guerre militaire, on est en guerre économique. Ouais. Donc l'enfant, il doit être un robot humain pouvant servir dans le système économique. C'est pas mieux, tu sais. On est en guerre économique. Ah non, alors. La règle nous invite à assumer notre réalité divine. Si je pratique le vrai, si je pratique le beau, si je pratique le bien de l'ensemble, si j'aide les autres à devenir meilleurs, si je sers l'intention du Père de ce que je peux en appréhender, je suis en épanouissement divin. À la compréhension, ça vous pose des difficultés ? Ensuite, eh ben, il faut oser. Et puis assumer. Ce qui veut dire qu'il faut être rebelle dans le monde où l'on est. Mais pas un rebelle inférieur, un rebelle agissant subtil. Il faut bien comprendre que quand nous aspirons en méditation à ce que cette société du matérialisme s'écroule, nous sommes rebelles au système. Mais c'est pour le bien de l'ensemble. Puis sachez que là, actuellement, vous œuvrez pour ça. Hein. si chacun n'accepte que ce qui convient, mais si vous suivez ce que j'évoque, on l'évoque ensemble.
Hein. Est-ce que le nouveau système est prêt à remplacer l'ancien ?
Il doit d'abord faire que l'ancien doit s'écrouler. On ne bâtit pas du neuf sur de l'ancien.
Il y aura quand même pas mal de victimes.
Mais l'auront-elles mérité ou pas ?
Oui, c'est ça.
Hein.
Le temps que ça tombe.
Non, il faut bien comprendre que l'intérêt général est sans commune mesure avec... voilà. Et puis, comme chaque agent karmique est notre être intérieur, eh bien, on peut penser que chacun est guidé par son propre être.
Hein ? Il faut déjà commencer à être, en être convaincu. Si on en est déjà convaincu...
On ne sera pas un convaincu.
N'est-ce pas ?
Absolument.
Ça manquait sur la cassette.
Qu'est-ce que tu as dit ?
Que ça manquait sur la cassette.
Oui, mais c'est vrai, c'est l'acide ioïque, tu sais.
Ça. Non, il faut être un combattant pour pas être un convaincu.
Voilà.
Bien, vous avez des questions ?
Non, j'ai quand même une petite remarque tu nous as fait, enfin, que j'ai diffusée à tout le monde, passer les invocations, que ce soit toutes les invocations, si on les regarde bien, si on les suit bien. Je crois qu'en fait, tout est là-dedans et c'est vraiment très, très important.
Oui, parce que ce sont en fait des invocations de synthèse. Ce qui veut dire, si vous voulez, que quand, par exemple, nous pratiquons la plus ancienne, qui date de 12 000 ans, mais tout est dit dans le dessin. Tout est dit. Conduisez-nous au point central de lumière.
De réalité,
de lumière. Ce qui veut dire, si vous voulez, quand vous prenez la grande invocation qu'a donnée Maitreya, mais en fait, il prend appui sur les trois centres majeurs planétaires que sont l'humanité, Shambhala, la hiérarchie, et il établit les liens énergétiques. Ce qui veut dire, si vous voulez, que derrière une invocation, il y a une réalité de liaison énergétique. Ce que vous ne trouvez pas dans la prière, qui n'a pas cette dimension de contact. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne rejoint le divin que par l'intérêt de l'ensemble. Et c'est ça qu'il faut saisir, c'est que servir la vie, c'est servir l'ensemble de la vie.
Et là, j'étais à la 8e, je crois. Et là, tu parles des lunes et du travail qu'on peut faire avec la lune chaque mois.
La pleine lune.
Et à un moment, tu dis, j'en parlais à Joëlla, tu dis, je vais vous donner un calendrier sur 7 ans pour ces lunes et puis d'autres phases de l'année.
J'ai dit sur 7 ans
Ouais, il me semble.
Enfin, de toute façon, le schéma est le suivant. À chaque pleine lune, tu as le père, l'homme céleste, Sanat Kumara, qui est en profonde méditation avec les êtres autour. Et le rendez-vous, c'est que pendant 2 jours avant et 2 jours après la pleine lune, tu as le mécanisme d'invocation les 2 jours avant, l'intermède le jour de la pleine lune, et 2 jours suivants, l'évocation. Ce qui veut dire que tu es en liaison énergétique porte ouverte. Alors, si tu invoques, tu ouvres la porte. La demande a une dimension qualifiée, c'est-à-dire pour le bien de l'ensemble et pour l'évolution de la civilisation, la porte s'ouvre en haut, ce qui veut dire qu'après, tu en as les effets dans le monde. l'afflux d'énergie de Shambhala a eu comme premier effet directement, alors qu'elle était en direct sur l'humanité, les réactivités du négatif. Réactivités qui sont traduites par la guerre 14-45. Ouais. Mais parce que le négatif a saisi tout de suite la puissance du pouvoir dans sa partie inférieure. Et c'était, on va dire, logique qu'il y ait d'abord la réactivité du négatif. Pourquoi ? Parce que l'humanité, ben, elle avait tellement de casseroles de séparativité que le négatif pouvait en profiter. Alors, maintenant, la situation est stabilisée. Ce qui veut dire que la destruction ne sera pas physique comme telle, sauf si l'humanité ne répond pas à la sollicitation, et elle sera essentiellement sur l'aspect subtil de la civilisation qui doit être éliminé.
Et par rapport à ça, ce travail de pleine lune de chacun d'entre nous et du groupe est un vecteur, peut-être pas capital, mais important. Ça apporte un plus.
Ta manière de servir. C'est la manière au groupe de servir.
Mais là, par rapport à ce que tu dis, de cette énergie de Shambhala qui a eu en premier lieu la réaction du négatif, ben c'est un peu l'exemple de la parabole de Jésus, de le blé et l'eau.
Hein?
La mauvaise herbe qui
est oui.
qui pousse.
Oui, mais là, c'est une image symbolique hein, pour faire le tri entre les hommes de bonne volonté et ceux qui sont en séparativité. Hein? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, quand elle afflue, elle est neutre. Ce qui veut dire qu'elle intensifie des deux côtés. En conséquence... Dans l'humanité, c'est d'abord le négatif, parce qu'il était en position, on va dire, dominante, qui a pris la main. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, eh ben, chacun de nous, en fait, est en phase de s'élire, ce qui va constituer une toile de lumière et d'amour pour permettre au guide et à Maitreya de revenir en pleine puissance, mais puissance absorbée et régulée de telle manière qu'elle ne soit pas destructrice. Parce que Maitreya ne vient pas uniquement porteur de l'énergie d'amour, mais porteur de la volonté d'amour. Et la démarche que nous devons bien appréhender, c'est le fait qu'en tant qu'être fusionné entre notre personnalité et notre être intérieur qui fait que nous pratiquons les justes relations, eh bien aujourd'hui, notre démarche doit passer maintenant à une dimension supérieure, c'est-à-dire prendre en compte l'ensemble. Et l'ensemble étant l'un. Alors quand vous avez des êtres normalement compétents en la matière, vous dire il n'y a qu'un fils unique de Dieu, nous avons là les limites de conscience des intéressés. Parce que pour la vie, retenez bien ça, l'imperfection, la perfection naît de l'imperfection. Le le pur naît de l'impur. Puisqu'à l'entrée du règne humain, les vies sont au stade de l'homme animal. Et ils ont à montrer leur qualification au mérite. Ce qui veut dire que naturellement, il n'y a pas, compte tenu de ce monde, pureté. L'imperfection naît de l'imperfection. Et c'est plutôt rassurant, non ?
De même que l'harmonie naît du conflit.
Ça veut dire qu'on n'y est pas encore à la perfection.
Mais tu n'auras jamais la perfection absolue.
C'est dans l'absolu, donc...
Tu as l'absolu relatif pour ton cycle de réalisation en tant que vie, mais quand tu sors du règne humain, donc de la quatrième hiérarchie créatrice, tu vas entrer dans une hiérarchie supérieure où tu débutes à la porte de la perfection.
Les perfectionnistes.
Qu'est-ce que tu as contre eux d'abord? Parce que dans tes propos là, t'as vu comment tu nous annonces ça? Oui, allez Gabriel, va. Si tu, je t'ai irrité, tu vois la perfection que tu as encore à franchir. Vas-y, je t'écoute.
Non, mais les perfectionnistes, ceux qui veulent avoir la main sur tout, que ce soit parfait, c'est un peu du premier rayon, non?
Oui, alors.
Oui, ils sont un peu
c'est... Mais non, c'est pas... Ah, ça dépend comment tu le vois. Mais ça veut dire simplement qu'ils ont dans leur synthèse encore à appréhender cet équilibre. Voilà. Ils ont à appréhender cet équilibre, c'est-à-dire que et si tu veux, nous sommes en absolu relatif. Tu peux avoir un sujet de perfectionniste quand tu as par exemple quelqu'un qui dit « Oh, j'ai fait un héritage énorme, mais j'aime l'humanité, je donne tout à l'humanité. » Voilà, c'est un perfectionniste. Peut-être que la vie lui avait mis ça dans les mains pour qu'il en fasse œuvre utile.
C'est un philanthrope tout au moins.
Oui, mais de primaire. Mais
pourquoi pas ?
Primaire. Primaire, parce qu'il a, il a oublié la notion de l'évolution au mérite. Donc ça veut dire qu'il n'a pas su mettre en pratique. Hein, il ne s'agit pas de dire c'est son karma et puis il se démerde. Hein, mais c'est aimer et donner. Mais donner pour récompenser au mérite. C'est la même nuance que vous avez entre égalité et équité. Égalité n'est pas en concordance avec l'aspect mérite. Parce que si on est tous égaux, y en a qui vont se mettre dans leur chaise longue. On est égaux, hein, donc tu bosses pour moi, c'est, ben, c'est tranquille.
Il y en a qui ont fait ça à une époque. On a vu ce que ça a donné.
Vous avez en matière de d'une façon plus large et plus générale, vous prenez par exemple. Les générations, et vous apercevez que la génération qui est autogénère, eh ben, elle s'est fortement servie sur le système. Hein, puisque les jeunes d'aujourd'hui, ils vont avoir à marner parce qu'on leur a pompé ce qui devait être leur terrain normal. De, ouais. Hein, ils ont... Voilà, ils ont pompé, moyennant quoi aujourd'hui, on se retrouve avec pour les jeunes générations des charges d'emprunt gigantesques.
Quand ils vont revenir,
ils vont revenir à un moment donné dont ils auront l'envers du décor. C'est là où il faut veiller à l'équilibre. Celui qui fait à l'excès, le Maitreya, il l'a bien annoncé, hein. Le mauvais roi sera le mendiant de demain. Hein. Donc pour se libérer de ses excès, eh bien, il choisira un moment où il aura, comme on dit, dur. Pardon ? Bon, vous avez d'autres... Non, ça va ?
Oui, je voulais simplement faire une petite remarque sur le texte lui-même, là, à propos du nombre 24.
Ah oui, 24, 42, 46. Oui. Ah oui, Shambhala,
etc. C'est intéressant parce que la racine militaire en hébreu, 24, c'est Kavdalet. Et Kavdalet signifie quand, lorsque. Autrement dit, donc, quand, lorsque. C'est-à-dire, c'est une notion de temps. Or, c'est vraiment lié, en fait, aux 24 heures, bien entendu.
Ah, mais non, à l'aspect
du temps, justement.
À l'aspect que le père, c'est le temps.
Oui.
Et la mère, l'espace.
Parce que Kavdalet, lettre à lettre, veut dire quoi ? Veut dire incarnation dans la matière. Donc, c'est-à-dire que
le penseur. Donc,
le penseur, à ce moment-là, donc, va engendrer le temps.
Absolument, au même titre que l'être écrit son futur et il ira dedans. Parle pour tout le monde. Oh non. Tu veux pas ?
Elle a dit que c'était parfait. Oui.
J'ai dit à quelqu'un il y a pas longtemps 24 ans. Vous avez 24 ans pour travailler.
Ouais.
La clé, elle est là.
Ouais. C'est un cycle en fait.
Mmh. 24 ans, c'est des cycles.
Ah, c'est 2 fois 12.
C'est 2 fois 12, en toute façon. Oui.
C'est 2 fois 12.
C'est lié à la réalisation de la destinée en fait.
C'est-à-dire un symboliquement un jour
oui.
Et une nuit.
Ah oui, d'accord.
C'est le jour et la nuit. Ce qui veut dire un jour dans la lumière, un jour dans les ténèbres.
Notion de travail et de repos.
Non. Un jour orienté vers l'esprit, un jour orienté, une nuit orientée vers la matière. Une respiration complète.
C'est à 42 ans qu'on est bon.
Non, 48.
49. Voilà. 7 fois 7.
49.
7 fois 7. Dit autrement, un être qui ne s'éveille pas alors qu'il devrait, qui ne l'a pas fait à 49 ans, son chemin de réalisation devient très étroit.
16.
Hein ?
16 alors.
C'est-à-dire
très étroit. Comme Benoît, t'es d'accord.
D'une manière comme une autre de suivre. Mais
49
et 60.
Hein ? D'ailleurs, j'habite 49 au milieu du pays.
T'es à la porte.
Ah, mais justement.
7 fois 7. Mais ce qui serait intéressant, c'est que je vous montre ceci. Vous avez pu voir que Shambhala avait comme symbolique le 9 et que la forme parfaite, c'est le 6. Voilà. Et la réalisation, c'est ceci.
Et si on les met tous les deux ensemble, qu'est-ce qu'on obtient ? L'infini.
Et si tu les mets ensemble, tu obtiens ceci. Oui, mais c'est la symbolique du trèfle à quatre feuilles. Parce que derrière la symbolique du trèfle à quatre feuilles, bon, vous avez la trinité des trois aspects, mais le quatrième, c'est la vie. Hein ? La fameuse tétratis supérieure. La vie ne peut s'exprimer réellement que quand les trois aspects de la vie sont assumés. L'aspect père, l'aspect fils, l'aspect mère. Ce qui vous amène à la symbolique suivante. Les trois aspects de la personnalité, les trois aspects de l'âme, les trois aspects de la monade. Quand l'être est en pleine réalisation de cela, la monade, vous avez l'aboutissement du cinquième règne, 9999. Nous sommes dans les nombres, hein. Nous ne sommes pas dans les chiffres. Ça veut dire que ça révèle une réalité sacrée. Et chaque être a son nombre, qui indique son stade de réalisation.
Hein?
Non. Sur les tablettes de ton parcours de vie, de la traversée du règne humain, t'as ton nombre. De quoi?
On peut téléphoner pour le connaître?
Au service client, ah, ouais. Tu demandes au service client si tu veux. C'est ça, voilà.
Absolument.
C'est mon numéro.
C'est celui à atteindre.
Non, mais j'ai jamais trop essayé au téléphone de faire ce numéro-là. Ça serait très surprenant.
La réponse? Oui.
Oui, mais là, vous avez, en architecture sacrée, vous avez une réalité là.
Ben oui, déjà, en fait, de toute façon, on a le double carré aussi, ça fait 9-18, l'espace.
Il faut savoir que dans l'architecture sacrée,
donc le carré, c'est ça.
Les structures concrètes doivent être en concordance avec les dimensions énergétiques. Et si vous voulez une plénitude de l'énergie de vie, il faut que toutes les dimensions d'espace soient en réduction numérique de 9. À partir de là, les longueurs d'onde ne sont pas cassées. Et il ne faut jamais que la réduction soit en 6. Parce que c'est l'infiniment petit qui prend son épanouissement.
Soleil,
alors. Oui, c'est la finalité de vivre dans un lieu sain.
Ce serait intéressant de voir ce que donnent les dimensions, n'est-ce pas, des églises, justement, par rapport à ça.
Ah ben, si ça a été fait par des architectes initiés, ça a été respecté.
Comme pratiquement aucun d'entre nous vit dans une maison à cette dimension, la barre atlante, elle agit là-dessus, sur ces chiffres.
Elle corrige.
Elle corrige en énergie jusqu'au point.
Elle corrige, oui. Ouais.
Mais il faut qu'on aille plus loin que la barre atlante, c'est-à-dire pour la correspondance amoureuse avec notre corps physique, c'est amener les structures.
Pourquoi amoureuse? T'es en affectivité totale,
là. Ouais, non, bien sûr, je parle toujours un peu de moi, c'est-à-dire l'incarnation dans le corps physique est tout aussi sacrée que le reste.
Oui.
Ça doit nous amener aux structures, enfin aux maisons, à ces dimensions-là.
Ah ben la finalité, c'est que un jour l'homme retrouve sa faculté naturelle de quitter consciemment son corps physique. Un. Deux, qu'il puisse accueillir des vies, des plans supérieurs. Si tu as un lieu sacré, c'est bon.
Ce sera plus facile quand, peut-être encore avec la barre atlante, il y aura le lieu à ces dimensions-là. Pour l'instant, la barre.
Ah bah dans un lieu, dans un lieu en question, tu n'auras plus besoin de barre atlante. Puisqu'en fait, la maison Lune-Soleil, c'est un atome. Si tu regardes la structure énergétique, c'est un atome. Et tu as le cube dans la sphère, c'est-à-dire la quadrature du cercle.
Bon, mais ça, tu l'as mis au point, c'est pas pour dans 25 générations. C'est dans les premières pierres qu'on va poser une fois que tout se sera cassé la gueule.
S'il y a quelqu'un qui ose, c'est bon.
Oui. J'ai été sous son
même avant, c'est sous son dans la poche.
Seriez-vous intéressé par un travail plus spécifique d'alignement ?
Oui.